Mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence de presse qui suit la réunion des chefs d'état-major de la Défense. Nous allons commencer par les déclarations, d'abord par le président du comité militaire, le général Pavel, suivi du SACEUR, le général Scaparotti, et du SACTE, le général Mercier, et ensuite vous aurez la possibilité de poser des questions. Général Pavel, merci et bonjour, mesdames et messieurs. Je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue dans ce tout nouvel auditorium du nouveau siège de l'OTAN. Je commence donc ma dernière conférence de presse à titre de président du comité militaire et je vais vous donner un aperçu des principaux résultats de la deuxième réunion des chefs d'état-major de la Défense de 2018. Les séances d'aujourd'hui ont porté essentiellement sur l'adaptation et la modernisation de l'Alliance. L'environnement de sécurité internationale continue d'être très volatile, ce qui signifie que l'Alliance doit s'assurer de sa disponibilité opérationnelle pour pouvoir réagir et répondre à toute menace ou défi. Nous avons fait beaucoup d'avancées, mais il reste du pain sur la planche pour adapter l'Alliance à ce que l'avenir peut lui réserver. Nous avons commencé nos réunions d'aujourd'hui avec la secrétaire générale déléguée, Rose Gottmüller, et avec le président du comité militaire de l'Union européenne, le général Mikhail Kostarakos. Les discussions ont porté essentiellement sur les priorités du sommet de juillet et la façon dont les militaires vont apporter leur soutien aux objectifs de l'Alliance. La deuxième réunion s'est tenue avec nos partenaires EOP, la Géorgie, la Jordanie, l'Australie, la Suède et la Finlande. Nous avons traité des questions de sécurité et de stabilité dans le voisinage méridional de l'Europe. Avec l'instabilité et les conflits au Proche-Orient, en Afrique du Nord et au Sahel, et le terrorisme qui continue de menacer nos sociétés, les chefs d'état-major ont échangé des vues sur le soutien supplémentaire que l'Alliance peut offrir à nos partenaires, comme par exemple en matière de formation. Concernant la mission de renforcement des capacités de formation en Irak, les chefs d'état-major de la Défense ont pris note de la nécessité pour l'OTAN de poursuivre les entretiens avec le nouveau gouvernement irakien une fois qu'il sera formé et a réitéré l'importance de la mission qui doit compléter les autres efforts internationaux, en particulier la coalition mondiale et l'Union européenne. Une plus grande cohérence des activités de la coalition de l'OTAN, de l'Union européenne et des Nations unies en Irak et en général au Sud pourrait donner de meilleurs effets de façon plus efficace. De façon plus personnelle, l'adaptation, ça représente... c'est synonyme de modification. Mon mandat se termine le mois prochain et donc je veux en profiter pour remercier le SACEUR et le SACTE pour leur soutien constant, leur leadership dans leurs commandements respectifs et pour leurs précieux conseils au cours de mes 3 années à titre de président du comité militaire. Et donc, ça m'a permis de piloter la partie militaire de l'Alliance au cours de son adaptation la plus importante au cours des dernières années. Et par exemple, l'adaptation de la structure de commandement de l'OTAN, le renforcement de la posture de dissuasion et de défense, la présence avancée rehaussée, notre présence au Sud, y compris à travers le pôle, nos relations avec la Russie, de nombreuses autres questions. Denis, je sais que vous quittez vos fonctions également bientôt et je pense que nous sommes tous les deux d'accord pour dire que nous quittons l'Alliance, nous laissons l'Alliance en position forte. Elle va aller de l'avant avec sa modernisation et elle sera disposée et prête à remplir ses 3 tâches fondamentales. Près de 70 ans après sa création, la mission essentielle de l'OTAN n'a pas changé. Garantir que l'Alliance reste une communauté sans équivalent de liberté, de paix, de sécurité, de valeurs partagées, de valeurs communes, y compris la liberté individuelle, les droits de l'homme, la démocratie et bien sûr la primauté du droit. Je suis vraiment un honneur pour moi d'avoir pu contribuer à cette entreprise. Alors, je donne tout d'abord la parole au SACEUR. Merci, Peter. Bonsoir et merci d'être venu à cette conférence de presse. Et merci, Peter, pour votre service. Vous avez dirigé le comité militaire au cours d'une période de changement important et sous votre leadership, la CEO, la CT, en coordination avec vos services, ont posé les bases de l'adaptation de l'OTAN à l'avenir. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec vous. Vous avez toujours appuyé le travail que je faisais. Et je vous offre tous mes vœux de réussite pour la poursuite de votre carrière. Et donc, j'aimerais également remercier Denis Mercier. La CT continue d'innover et permet à la CEO d'être prête pour l'avenir et de renforcer ses capacités de combat. Et donc, ce que nous avons pu faire a été possible parce que j'ai d'excellents services, des effectifs et c'est probablement les meilleures équipes dont disposait la CEO, la CETO dans l'histoire de l'OTAN. Et donc, je vous suis très reconnaissant pour votre soutien. Aujourd'hui, c'était la première réunion des chefs d'état-major de la défense dans le nouveau siège de l'OTAN. Et donc, cette l'architecture du siège représente la cohésion, la solidarité. Et nos réunions ont également fait preuve de cette cohésion, de cette solidarité. J'aimerais remercier les chefs d'état-major de leur présence et d'avoir travaillé avec nous. Nous avons travaillé pour traiter de l'adaptation de la structure de commandement de l'OTAN. Je vois que l'ACO, qui se consacre à la planification et l'exécution des opérations de l'OTAN et qui fournit un commandement de mission efficace avec un état-major permanent et déployable et un commandement prêt et disposé à accomplir toute la vaste gamme des missions auxquelles l'OTAN doit se consacrer. L'OTAN est prête et réactive et nous en faisons la preuve tous les jours. En Irak, nous investissons dans les efforts de formation et de renforcement des capacités et nous allons continuer à renforcer la résilience et la sécurité en Irak. À la dernière ministérielle défense, on nous a chargé de planifier une mission de formation et d'entraînement en Irak. Nous travaillons sur ce plan pour nous assurer que nous contribuons au développement des institutions de sécurité de l'Irak et à la stabilisation à long terme de l'Irak. Pour ce qui est des exercices de l'OTAN, comme par exemple Trident Juncture 2018, c'est un élément important de la disponibilité opérationnelle de l'Alliance. Nous devons nous assurer que nos troupes sont disposées à répondre aux menaces qui proviennent de quelque direction que ce soit et qu'elles peuvent répondre aux menaces. Nos soldats sont formés, sont entraînés, sont prêts et notre engagement est indéfectible. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un environnement difficile et donc nous devons garder cet engagement envers l'Alliance, la plus grande alliance de l'histoire de l'humanité. Et donc, nous devons faire preuve de solidarité. Nous devons préserver notre engagement pour préserver la liberté et la paix de l'Europe. Et je suis convaincu que les recommandations que nous avons prises aujourd'hui vont contribuer à cela. Et je vais donner la parole maintenant à Denis.
Merci, Peter et Mike. Alors, depuis ma prise de fonction à la tête de l'ACT en septembre 2015, j'ai participé à 8 sessions de la conférence des chefs d'état-major, que ce soit ici à Bruxelles ou dans l'un de nos pays alliés. Et cette fois-ci, il s'agissait de la dernière réunion de ce type avant le passage de témoins qui aura lieu en septembre cette année. Cette conférence de presse me donne l'occasion aujourd'hui de remercier publiquement mes deux collègues et amis, le général Scaparotti, le général Pavel, Peter. J'aimerais vous remercier très sincèrement pour le travail remarquable que nous avons ensemble accompli comme une équipe pour améliorer la paix et la sécurité dans la zone euro-atlantique. Je n'aurais jamais pu imaginer de meilleurs leaders, de meilleurs amis avec qui travailler. Il me reste encore 4 mois avant mon départ. Je vais donc continuer à promouvoir ma mission, à savoir faire en sorte que l'ACT mette l'accent sur l'évolution du combat. Je ferai en sorte que le SACEUR dispose des capacités de combat dont il a besoin pour faire face à tous les défis actuels et à venir. J'ai présenté aujourd'hui différentes idées. J'ai expliqué comment des technologies perturbatrices telles que l'intelligence artificielle peuvent améliorer notre processus de prise de décision, nos capacités logistiques et d'autres domaines qui sont utiles à la posture militaire de l'Alliance. L'une de mes principales réalisations en tant que SACT est probablement la contribution à l'adaptation réadaptation de la NCS de l'OTAN, de la structure de commandement de l'OTAN, qui a été entérinée par les pays, qui deviendra réalité prochainement. Il s'agit d'une évolution nécessaire de la structure de commandement qui permettra de renforcer la posture de dissuasion et de défense de l'Alliance. Je suis convaincue que cette adaptation n'est qu'une étape parmi d'autres pour garder cette longueur d'avance. Notre Alliance doit continuer à innover pour s'adapter à un environnement changeant. Nous sommes membres de l'Alliance militaire la plus efficace et la plus réussie au monde, tout simplement parce que nous avons réussi à nous adapter. En février 2018, les ministres de la Défense ont décidé des principaux éléments de cette nouvelle structure de commandement de l'OTAN. D'autres décisions seront prises en juin, conformément à notre calendrier, ainsi que les emplacements de nos nouveaux commandements. Je suis très fière de la contribution que nous avons pu apporter avec l'ACO, avec le SACEUR, à cette adaptation de notre structure de commandement. Et je ne pourrais conclure sans parler rapidement de l'exercice Trident Juncture 2018. Cet exercice Trident Juncture 2018 aura lieu en octobre cette année en Norvège. Il a pour objectif de veiller à ce que les forces de l'OTAN soient entraînées et prêtes. Il s'agit d'une mise à l'épreuve importante et d'une magnifique démonstration de nos capacités collectives. Cet exercice comprend deux volets. Tout d'abord, un exercice réel qui aura lieu en Norvège et un exercice au poste de commandement à Naples. Avec plus de 40 000 participants venant de plus de 30 pays, cet exercice est un magnifique exemple d'une collaboration entre alliés de l'OTAN et partenaires en temps de paix ainsi qu'en situation de crise. Il s'agira de l'un des plus grands exercices jamais organisés par l'OTAN ces dernières années. Au-delà même de Trident Juncture 2015, cet exercice comporte des éléments terrestres, aériens et maritimes et la Norvège offre la possibilité de s'entraîner de manière totalement réaliste dans tous ces domaines. Les conditions climatiques humides et froides présenteront des défis supplémentaires pour nos troupes et nous allons les entraîner pour pouvoir être opérationnels dans des situations extrêmes. Il est particulièrement important pour l'OTAN de faire la preuve qu'elle est prête à se défendre et à dissuader dans toutes les zones géographiques de notre alliance. L'exercice du scénario n'est pas réel, mais les leçons que nous en tirerons sont-elles bien réelles, ainsi que les bénéfices que nous pourrons en retirer en matière de résilience et de renforcement. Cet exercice tiendra compte d'un certain nombre de nouvelles expérimentations, de nouvelles capacités, de nouveaux systèmes qui nous permettront de renforcer notre capacité militaire. L'OTAN est une alliance défensive. C'est pour cela que nous sommes ouverts et tout à fait transparents dans notre manière de nous entraîner. Les observateurs seront invités et les règles internationales en matière d'exercice militaire seront pleinement respectées. Merci. J'aimerais maintenant vous demander de vous présenter et de poser votre question dans le micro. Merci. Julian Barnes du Wall Street Journal. Je me demandais si vous pouviez nous en dire un peu plus sur les activités de lutte contre le terrorisme de l'OTAN au-delà de l'Afghanistan et l'Irak. Le secrétaire d'État Pompeo, lorsqu'il est venu ici à Bruxelles, s'est exprimé à nouveau pour rappeler à quel point la lutte contre le terrorisme était importante aux yeux de l'administration Trump. Le secrétaire général en parlera plus demain, mais pourriez-vous nous en dire un petit peu plus en ce qui concerne les débats que vous avez pu avoir sur ce thème aujourd'hui, quelles sont les nouvelles initiatives qui seront lancées par l'OTAN pour traiter de ce problème? Et une question connexe, l'adaptation de la NCS est très liée au problème sur le flanc Est, la question de la logistique pour transporter le matériel, entre autres, mais cette adaptation permettra-t-elle de surmonter les difficultés que l'on rencontre au sud et notamment la menace terroriste? Alors, tout d'abord, lorsque l'on parle de lutte contre le terrorisme, notre capacité à projeter la stabilité en renforçant les capacités, comme nous allons le faire en Irak, puisque nous allons étendre nos activités en Irak. C'est la même chose pour l'Afghanistan. Nous travaillons avec la Tunisie, la Jordanie, d'autres pays également, avec ce même objectif. Nous avons beaucoup travaillé sur la question du partage de l'information, comment surmonter les obstacles qui existent dans ce partage d'information ici au sein de l'OTAN et avec les partenaires partout dans le monde. C'est probablement le principe principales défis, comment partager le renseignement, la différence entre le renseignement militaire, le renseignement civil. Voici donc les grands chantiers qui sont en cours et nos états-majors, dans leur fonctionnement, dans leur structure, étant donné le contexte actuel, travaillent pour pouvoir fournir ce type d'analyse et aider d'autres pays, ainsi que le secteur civil, chaque fois que cela est possible, grâce à un meilleur flux de l'information, un partage de l'information. Donc voilà, cela fait partie de notre effort. Je vous donne l'exemple du pôle, par exemple, de par sa nature, met l'accent sur le sud, bien sûr, mais s'intéresse également aux menaces transnationales de tout type, et cela participe de notre lutte contre le terrorisme. En ce qui concerne l'adaptation de la NCS, je dirais que on a tendance à mettre l'accent sur l'Est parce que c'est probablement la partie émergée de l'iceberg avec la possibilité pour les deux états-majors de pouvoir faire face à un adversaire étatique de force égale. Mais notre SCS est tellement bien structurée pour qu'elle puisse répondre à toutes les menaces à 360 degrés et répondre à nos missions essentielles. Le pôle traitera notamment du Sud. Mais les changements que nous avons opérés au niveau de chacun de ces états-majors permettra de répondre aux défis actuels tels que le défi du cyber, l'information, le besoin d'établir des liens entre nos opérations stratégiques et la structure de force de l'OTAN. Voici donc des efforts qui seront déployés dans l'ensemble de la NCS et cela s'applique aux efforts à la fois du Sud ou bien à l'Est également avec un opposant étatique de force égale et il s'agit donc de mettre l'accent sur notre capacité à relever ces défis. Un complément de réponse, si vous me le permettez, nous avons récemment élaboré un concept pour la lutte contre le terrorisme qui va au-delà de l'Afghanistan et de l'Irak, comme vous l'avez dit, avec trois principaux chapitres qui concernent l'évaluation, l'engagement et les capacités dont nous avons besoin. Et en ce qui concerne votre deuxième question, lorsque l'on parle du besoin d'organiser la logistique dans la zone de responsabilité du SACEUR, cela s'applique non seulement à une menace qui émanerait de l'Est, mais dans le concept stratégique, nous avons également le besoin de pouvoir lancer plusieurs opérations simultanément. Si nous devions lancer des opérations dans l'ensemble de la zone de responsabilité, eh bien la logistique jouerait un rôle absolument essentiel. Par conséquent, il s'agit d'une décision qui ne concerne pas uniquement les menaces qui émaneraient de l'Est.
Merci, Terry Schultz de NPR. À la suite de la question de Julian, voilà des choses que vous avez faites, des avancées, mais le président Trump dit qu'il en veut davantage, que l'OTAN peut en faire plus dans la lutte contre le terrorisme. Alors, je pense que ce qu'on souhaiterait voir ici, ce qu'on souhaiterait savoir, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que ce que vous avez déjà réalisé? Eh bien, je vous dirais que oui, on le fait maintenant, mais on va le faire mieux. On va mieux le faire. Ça fait partie de cette adaptation. Je vois que vous souriez, mais les états-majors maintenant, de nos jours, doivent être beaucoup plus agiles que ce n'était le cas dans le passé. Et donc, ça fait une différence dans la lutte contre le terrorisme. Si vous allez dans un centre du renseignement aujourd'hui et si vous examinez ce qu'ils essaient de faire en termes de fusion de données du renseignement, par exemple, c'est ce qu'on essaie de faire. Les États-Unis essaient toujours de perfectionner ces compétences. Et alors, il ne s'agit pas nécessairement de créer un nouvel état-major, mais il faut améliorer les compétences dans les états-majors dont nous disposons déjà. Ensuite, dans la coalition, l'OTAN fait partie de la coalition maintenant depuis près d'un an. Donc, alors, ce que ça nous donne, c'est que ça nous donne cette coordination et ça fait en sorte que nous participons à une coalition tous les jours et ce n'était pas le cas auparavant. C'était uniquement les différents pays qui participaient à la coalition. Donc voilà un exemple d'adaptation et de changement et ça va participer à la lutte contre le terrorisme. Dernier élément, comme vous le savez, Cette menace est à 360 degrés. Il n'y a pas un seul pays en Europe qui n'est pas visé par ces menaces terroristes ou transnationales. Alors, encore une fois, lorsqu'on a conçu cette structure de commande de l'OTAN, il faut vraiment examiner ces menaces à 360 degrés. Donc, pas uniquement les menaces externes, mais les menaces internes. Et il faut voir comment on peut aider les pays à améliorer leur propre sécurité. Oui, j'ajouterai un élément. En faire davantage dans la lutte contre le terrorisme, il ne s'agit pas simplement de tuer plus de terroristes, c'est beaucoup plus large que cela. Nous avons passé à peu près le tiers de notre temps aujourd'hui à parler des questions qui ont trait au Sud, et donc on n'a pas uniquement parlé de ce qu'on a fait, mais on a élaboré des plans pour l'avenir, et ça comprend par exemple un certain nombre d'activités de formation et d'entraînement avec nos partenaires dans la région pour augmenter leur résilience et leur capacité à régler ces problèmes avec notre aide. Et je pense que la gamme des mesures que nous prenons, que nous allons prendre, est très large, et les pays méridionaux ont des défis à relever, et ils approuvent la voie à suivre que nous avons adoptée, et ils sont satisfaits de cette voie à suivre. Bonjour, Jamie McIntyre avec le Washington Examiner. Il y a un peu plus de 6 mois, on entendait des analyses des commandants américains en Afghanistan et des exposés du Pentagone. La nouvelle stratégie allait changer les règles du jeu, et un des généraux disait qu'il estimait qu'on avait vraiment franchi un cap en Afghanistan. Et aujourd'hui, on voit que les forces afghanes combattent toujours les talibans. Alors ma question au général Scaparotti est en 3 volets. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a franchi un cap en Afghanistan, ou comment caractériserez-vous? Comment est-ce que vous caractériseriez cette situation, et à quoi peut-on s'attendre cette année en Afghanistan? Et la troisième volet, qu'est-ce que l'OTAN doit faire de plus pour s'assurer qu'il y a vraiment des avancées qui sont réalisées? Oui, alors je dirais d'abord qu'il faut faire preuve de la même détermination. Nous devons nous engager à combler les effectifs et à fournir les ressources qu'on s'est engagé à fournir. Et donc, il y a encore des pays qui doivent s'y mettre. Et deuxièmement, bon, moi je n'utilise pas d'expression comme ça, franchir un cap, ou bon. Ce sera toujours une lutte difficile, et je l'ai répété à quelques reprises, mais je pense que le plan que nous avons mis en place et la feuille de route afghane qu'ils ont vraiment conçu eux-mêmes, et j'ai parlé au président Ghani, et c'est vraiment leur plan, leur feuille de route, et je pense que c'est un excellent plan, et je pense que leurs subordonnés ont vraiment à cœur d'appliquer cette feuille de route. Et c'est ça qui est différent par rapport à ce qu'on voyait dans le passé. Et donc, on veut que l'Afghanistan réalise cette feuille de route. Et je pense que cette année, moi, je m'attends à une deuxième année où les forces afghanes vont être couronnées de succès et vont diminuer la capacité des talibans à se battre pendant la saison des combats, et nous allons continuer à aider les Afghans. Nous l'avons fait l'an dernier. Par exemple, aujourd'hui, la violence qui a commencé, qui a lancé la campagne de l'été, mais on est à 50%, c'est 50% moins intense que ce qu'on voyait l'an dernier, par exemple. Et donc, nous en sommes sous... quand on regarde le nombre d'attentats qui ont marqué le début d'une campagne de violence ou de combat, on est sous les niveaux qu'on constatait dans les années précédentes. Donc, on voit bien qu'on a vraiment atteint leur capacité à attaquer. Donc, nous savons que nous avons atteint leur chaîne de commandement, de contrôle. Et donc, nous voyons que à la fin de cette deuxième année, nous aurons appliqué suffisamment de pression sur les talibans. Et j'espère qu'à l'avenir, ça poussera les talibans à venir à la table de négociation. Et il faut en arriver à une solution négociée. Donc, c'est ça l'idée de la feuille de route, c'est de renforcer les capacités pour pouvoir appliquer cette pression sur les talibans. Oui, si je peux me permettre, Mike, j'ajouterais un élément qui est plus civil que militaire. Je pense que c'est un nouveau phénomène dont nous sommes témoins au cours de cette réunion des chefs d'État-major de la Défense. Il y avait des représentants civils qui... la frustration croissante de toute la société civile en Afghanistan et la pression que ces gens exercent sur le gouvernement pour mettre fin au conflit. Et également, ces attentats à haute visibilité attirent beaucoup l'attention des médias internationaux, mais ils sapent par contre le soutien qui est accordé aux talibans à l'intérieur du pays. Et donc, je pense que le chemin vers la fin du conflit est très différent de celui qu'on constatait au cours des années précédentes. Oui, agence de presse ukrainienne. J'ai une question pour vous, Général Pavel. Il s'agit de votre dernière conférence de presse et je pense que je vais vous poser une question sur un autre sujet. Évidemment, comme je suis ukrainienne, ça portera sur l'Ukraine. Après toutes ces années, quel serait le conseil que vous donneriez à votre successeur sur la façon de traiter avec ce partenaire qu'est l'Ukraine? Récemment, vous étiez en Ukraine. Pourriez-vous nous dire quelles ont été les conclusions que vous avez présentées au Conseil de l'Atlantique Nord? Oui, je serai très bref à ce sujet. Je pense que la meilleure façon de procéder, c'est de poursuivre, de continuer sur la lancée pour que l'Ukraine puisse réussir, que ce soit sur le plan militaire ou économique, parce que c'est la meilleure réponse à donner à l'approche de la Russie en Ukraine. Nous allons continuer à apporter notre soutien à l'Ukraine, aux forces armées de l'Ukraine, pour qu'elles soient plus modernes, qu'elles se modernisent et qu'elles aient un effet dissuasif. Nous allons également apporter notre soutien à l'Ukraine par l'entremise de plusieurs moyens, par l'entremise du paquet global que nous avons. Ça comprend un soutien financier, un soutien institutionnel. Et nous allons continuer à exercer une pression sur la Russie pour qu'elle respecte les normes internationales. Et dans mon rapport, le rapport de ma visite en Ukraine, c'était une évaluation très positive que j'ai faite sur les avancées qui ont été faites par les forces armées ukrainiennes dans la voie des réformes. Parce que même si ça peut sembler lent pour ceux qui ne connaissent pas bien la situation. En fait, les avancées qui ont été réalisées sont assez remarquables.
Jim Caramon de DOD News. Messieurs, tous les trois, vous avez parlé de l'exercice Trident Juncture. Et vous avez bien sûr attaché beaucoup d'importance à cet exercice. D'après vous, quels sont les enseignements que pourrait tirer la Russie de ce type d'exercice? Alors, tout d'abord, très brièvement, il s'agit d'un élément de notre dissuasion vis-à-vis de la Russie. On fait la démonstration de nos capacités, notre vision du monde pour démontrer ce que nous sommes capables de faire. Il s'agit tout simplement d'un message de dissuasion. Et j'ajouterais que nous avons rarement l'occasion d'organiser des exercices réels de ce type où des troupes sont déployées, plus de 40 000, je l'ai déjà dit. Il s'agit d'une excellente démonstration, notamment de notre unité. Il s'agit d'une démonstration de notre façon de travailler, y compris avec les partenaires, parce qu'un certain nombre d'entre eux y participeront. Et nous ferons la démonstration également de notre interopérabilité. C'est très important de faire cette démonstration pour montrer qu'à 29... nous ne sommes pas moins performants que seuls, mais bien au contraire, nous sommes plus forts et c'est exactement le message que nous souhaitons envoyer par le biais de cet exercice Trident Juncture 2018. Et je l'ai déjà dit par le passé, si vous regardez cet exercice par rapport aux exercices réalisés par la Russie, par exemple, il s'agit d'un exercice qui met l'accent sur la défense. Il s'agit d'un exercice défensif pour les pays souverains qui font partie de l'OTAN. Voilà ce qu'on essaye de faire. Et c'est encore une fois le message que nous allons essayer d'envoyer. Et même si je n'ai pas parlé de cet exercice, j'ajouterai une phrase supplémentaire. Cet exercice nous permettra de faire la preuve que nous respectons pleinement les normes et les obligations du processus de Vienne. Merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence de presse.